Donc à nouveau bonjour à tous. Donc j'espère que vous entendez bien quand même. Ça va? Voilà, on va essayer de gérer le. Je ne sais pas si ce que je vais dire ce matin prendra un ou deux messages. Donc on va voir. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager. Il y a certaines images que j'aimerais transmettre aussi concrètes que possible. Parce que nous faisons souvent des affirmations sur la base de versets bibliques, mais on peut se demander parfois si on comprend même ce que cela veut dire. J'ai été crucifié avec Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu dans le temps et dans l'espace, une vérité positionnelle, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vit? Si on le vit, ça veut dire quoi, concrètement? On dit de la même manière, Jésus a vaincu à la croix. Mais il a vaincu quoi? Il a vaincu comment? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé à la croix? Vous voyez, ce sont des expressions que l'on emploie. Jésus a vaincu à la croix et on voit un corps sanguinolent sur la croix qui, d'un point de vue humain, est tout sauf une victoire. Alors, en quoi cette mort sanglante est-elle une victoire pour nous? C'est quoi le lien avec nos vies? Vous voyez, on affirme des choses, on lit des choses, mais mon souci à chaque fois, c'est à quelle réalité concrète, expérimentale, comment ça se traduit dans nos vies. Hein? Sinon, on est un chrétien de proclamation, et sans vouloir offenser personne qui écoutera l'enregistrement, on est un peu comme des gauchistes. On affirme des choses, on a des narratives, des déclarations, et on pense que plus on les proclame, plus la réalité va changer. Vous voyez, on pense agir sur le réel par nos proclamations. Et entre-temps, le réel nous résiste. Donc, voilà, je vais essayer aujourd'hui de mettre en forme ce que je viens de dire en quelques mots. Donc, sur la base du texte qui prend la suite de la dernière fois, dans Galates 5, des versets 16 à 26. Et toujours pareil, dans une traduction directement à partir du texte araméen. Et donc, c'est pour ça que je précise à chaque fois, le français est un peu parfois bizarre, parce que j'essaye de coller à l'araméen plus que de rendre un beau texte français. Donc, Galates 5, versets 16 à 26. Et dans la lecture, au fil même de la lecture, je préciserai certains mots pour qu'on comprenne bien. Or, je vous dis, marchez dans l'esprit ou par l'esprit, c'est le même mot, et vous ne mettrez jamais en œuvre les désirs de la chair. Donc là, je précise d'emblée, le mot pour désir et pour convoitise est le même en araméen et en grec. Donc ce qui change et qui fait qu'un désir devient convoitise, c'est ce que l'on désire. Si ce que l'on désire est dans la volonté de Dieu, c'est un désir que Dieu va bénir. Si c'est un désir qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça devient convoitise égocentrée que Dieu condamne. Mais c'est le même élan initial. La différence, c'est quel est l'objet du désir. Marchez par l'esprit, vous ne mettrez jamais en œuvre les désirs, ou donc ici plutôt les convoitises, de la chair. Car la chair désire ou convoite la chose qui contrarie l'esprit. Mais c'est intéressant, parce que l'esprit désire la chose qui contrarie la chair. Donc, on va le restituer maintenant. La chair convoite ce qui contrarie l'esprit, et l'esprit désire ce qui contrarie la chair. Mais c'est bien le même verbe. Les deux, chair et esprit, sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne mettiez pas en œuvre la chose ou les choses que vous voudriez. Ah, il y a des choses que je veux par la chair, par la convoitise, mais l'esprit lutte et résiste et ne veut pas que je les fasse. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont connues. Et là, Paul va nous faire une liste très longue. C'est la plus longue, je crois, qui existe dans le Nouveau Testament. 16 16 œuvres de la chair. Je reviendrai après là-dessus. La prostitution, qui peut être autant de corps que d'esprit, puisqu'aller vers d'autres dieux est qualifiée dans la première alliance de prostitution spirituelle. L'impureté, c'est le même mot qui est employé pour parler de l'abomination. Vous vous rappelez dans Daniel l'abomination de la désolation ? C'est ce mot-là. Donc c'est quelque chose de grave, l'abomination. La licence, le culte rendu aux idoles, la sorcellerie. Et là, on a un premier paquet qui touche aux choses spirituelles. Deuxième paquet, l'inimitié, la querelle, la jalousie, la fureur, la contumace. Alors, il a fallu que j'aille chercher le dictionnaire. La contumace, c'est ce qui est orgueilleux, arrogant, hautain, superbe, fier. C'est ça, la contumace. La division, le schisme, l'envie, le meurtre. On commence avec l'inimitié et on va jusqu'au meurtre. Ça, c'est tout ce qui touche aux relations les uns avec les autres. Vous voyez ? Après les péchés de l'ordre spirituel, on a maintenant les péchés relationnels qui vont de l'inimitié jusqu'au meurtre. Et enfin, les deux derniers, l'ivrognerie et la fêtardise. Et ça, c'est la débauche du corps, les orgies de nourriture, voilà, toutes ces choses-là qui affectent les appétits du corps. On a eu l'esprit, on a eu l'âme, le relationnel, et on a des péchés maintenant du corps. Le manque de maîtrise. Et toutes choses qui leur sont semblables. Donc vous voyez que Paul a listé trois familles, l'esprit, l'âme et le corps, trois familles d'œuvres de la chair. Donc on voit que la chair touche les trois domaines. Ceux qui font ces choses, comme déjà auparavant je vous l'avais dit, et maintenant je le dis, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Là, toutes les déclarations positionnelles ne servent plus à rien. La question, c'est dans quelle réalité vivons-nous ? Or, les fruits de l'esprit, donc par contraste, sont l'amour. Et je rappelle qu'en araméen, amour, c'est l'amour ardent. Ça renvoie à une racine qui veut dire ce qui est bouillant. C'est l'amour ardent. La joie, la paix, la patience. C'est intéressant. En araméen, la patience, c'est la longueur d'esprit. Et donc, le bon terme, sans doute, en français, ça serait la longanimité, qui veut dire aussi la patience. Et on retrouve cette idée de longueur d'esprit. On patiente, on endure sur la durée, sur le temps. La douceur, la bonté, la foi. Je rappelle que la foi, c'est à la fois la confiance en Dieu, c'est un état de repos du cœur, et la fidélité à Dieu. Autrement dit, dans la foi, il y a automatiquement l'obéissance. La foi n'est à nouveau pas simplement déclarative. Je crois en Dieu, je crois en... Non, la foi est obéissante. Et enfin, l'humilité et la persévérance. La loi n'est pas établie contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent au Messie ont crucifié leur chair avec toutes ses passions et ses convoitises. Deuxième affirmation qui nous ramène dans le terrain de la réalité. Ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'héritent pas du royaume de Dieu. Et ceux qui appartiennent au Messie ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Je reviendrai sur tout ça. Vivons donc par l'esprit, et c'est intéressant, livrons-nous à l'esprit. Je ne sais pas quelle traduction vous avez pour le verset 25. Est-ce que quelqu'un peut dire, lire le verset 25 à voix haute.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit.
D'accord, c'est le verset 25 ?
Oui.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres verbes qui sont employés là ?
Conduire.
D'accord. Marcher. Conduire, marcher.
Marchons aussi sous l'impulsion de
l'esprit. Ah, d'accord.
Se laisser
diriger. En araméen, le terme est fort. Livrons-nous à l'esprit. Alors pour ceux qui sont sémitisants, arabisants, hébraïsants et tout ce qu'on veut, C'est le verbe, c'est la même racine que salam, shalom, shlama, c'est-à-dire c'est ce qui procure la paix, mais également il y a l'idée d'être livré à, il y a une idée de quelque chose qui est livré, qui arrive à son terme, et c'est comme ça qu'on a la paix. Donc là, c'est livrez-vous à l'esprit. C'est un terme qui est fort. C'est pas simplement marcher, être conduit, c'est livrez-vous, c'est actif. Donc vivons par l'esprit et livrons-nous à l'esprit. Et ne soyons pas de vains glorieux qui avons le dessus l'un sur l'autre. Hein, on essaie constamment d'avoir le dessus, l'ascendant, raison sur l'autre. Et donc ne soyons pas, ne nous envions pas l'un l'autre. Et là, le terme envier, c'est celui qu'on a vu comme étant un des fruits de l'esprit, l'envie, fait partie de la liste des œuvres de la chair dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est étonnant que, après avoir dit marchons par l'esprit, livrons-nous à l'esprit, il rappelle de ne pas nous envier les uns les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait bien envier à l'autre quand on est supposé marcher par l'esprit? Il faudrait se poser la question aussi. Que ce terme-là, envie, n'est pas anodin. En particulier quand on regarde les évangiles et l'opposition qu'il y a eu entre Jésus et les religieux. Voilà, donc je vais reprendre quelques-uns des termes de ce que l'on a lu et je vais essayer de le développer. Alors d'abord, marcher par l'esprit et vous ne mettrez pas en œuvre les convoitises de la chair. C'est intéressant parce que quand on est religieux, on fait exactement l'inverse. Nous essayons de brider la chair, de maîtriser la chair, de ne pas pécher, avec l'espérance que par là, nous découvrirons la vie de l'esprit. Paul dit exactement l'inverse. C'est en marchant par l'esprit qu'on va éviter les œuvres de la chair. C'est très important parce que suivant l'ordre dans lequel on met les choses, on ne met pas du tout les efforts dans les mêmes domaines. Ce sont en général les mouvements perfectionnistes et parfois revivalistes, malheureusement, au sens de ceux qui cherchent la Pentecôte, le réveil. Donc, une expérience de l'esprit, et attention, je ne parle pas du tout contre le réveil, simplement les termes sont piégés. On pense réveil, mais deux personnes ne mettent pas la même réalité derrière le mot réveil. Donc au sens d'une deuxième expérience qui compléterait la nouvelle naissance, et je mets nouvelle naissance entre guillemets, parce que lorsqu'on parle en général de deuxième expérience, il y a un défaut de compréhension de ce qu'est la nouvelle naissance. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Et donc on met la victoire, là en avant, la victoire sur la chair, afin de recevoir l'esprit et de le manifester. Et pourtant, la parole dit l'inverse, c'est marcher par l'esprit et du coup vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si mon énergie est mise dans la marche par l'esprit, et il faut immédiatement dire qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on peut faire le même travers dans la recherche de l'esprit que dans la lutte contre la chair. Mais je précise d'emblée que par nous-mêmes, la lutte contre la chair est impossible. En fait, plus on essaie de la maîtriser, plus on la manifeste. C'est un truc absolument incroyable, la chair. Plus on essaye de maîtriser la chair, plus on essaye de dominer sur la chair, plus on essaye de l'analyser, plus on essaye de la décortiquer, d'en connaître les mécanismes, et plus elle se renforce, plus elle devient puissante, et plus on est impuissant face à elle. Donc la démarche à l'égard de la chair, c'est pas ça. Le seul qui est capable de rendre la chair impuissante, c'est l'esprit en nous. C'est pour ça que Paul dit, il faut marcher par l'esprit, et alors vous pourrez dominer sur les œuvres de la chair. Mais comment marche-t-on par l'esprit? Et comme je l'ai dit, la marche par l'esprit suppose un moteur et un seul. Et c'est là qu'on revient à la question du désir. C'est notre désir de relation et d'expérience de l'union à Jésus. Et il n'y a rien d'autre. La marche par l'esprit est la conséquence d'un seul moteur, un désir en nous de connaître en vérité Jésus. pas dans le narratif, le proclamatif, comme je l'ai dit, mais en vérité, expérimenter cette relation à Jésus. Et c'est ça que je vais vraiment accentuer juste après, pour voir comment se met en place cette relation. C'est là que c'est douloureux pour la chair. Et je précise dans mes notes, si du moins nous avons rencontré Jésus, si du moins Jésus s'est bien révélé à nous par l'appel. Et c'est tout le sens en fait de Romains 6. Parce qu'il y a deux manières de lire Romains 6. Alors, je ne vais pas lire tout Romains 6, je vais lire 2-3 versets. Et il y a vraiment deux lectures complètement différentes de Romains 6 et qui n'amènent pas aux mêmes conclusions. À partir du verset 5. Si, et notez bien le « si », nous sommes devenus une même plante avec lui par la forme de sa mort, et je mets exprès le mot « forme », vous comprendrez un peu pourquoi, nous le serons aussi par la forme à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et là, il y a deux manières d'aborder ou de lire ce passage. Les uns vont dire, l'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre objective qui est accomplie. Donc, nous sommes crucifiés avec Jésus. Nous sommes, et on est dans le proclamatif. On met l'accent sur cette œuvre unique qu'a accompli le Fils à la croix, dans le temps et dans l'espace, il y a 2000 ans. Et après, on dit, bah, comme je suis croyant, et toute la question elle est là, donc forcément, tout ce qui était accompli là est vrai dans ma vie, même si je ne le vis pas, ou pas encore. Et là, il y a un hiatus entre ce que l'on proclame et ce que l'on vit. Donc pour les uns, comme je l'ai dit, voilà, c'est une vérité que l'on clame. On met l'accent sur l'objectif, le côté objectif de l'œuvre de Jésus à la croix. Et du coup, on en tire des conséquences sur notre vie, notre position, etc. Mais la vraie question, c'est en avons-nous l'expérience? Vous voyez? Le vrai problème, il est là. Et inversement, d'autres, évidemment, comme je l'ai dit, les mouvements plutôt perfectionnistes, essaye d'accomplir et de refaire l'œuvre de la croix en eux, en oubliant évidemment que sans que ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans, en fait tous nos efforts sont strictement vains. Donc il y a toujours un tiraillement entre ce que Jésus a accompli à la croix et la manière dont ça se traduit dans nos vies. Et suivant là où on met l'accent, on peut rester dans le proclamatif ou on peut tourner en rond autour de sa propre chair. Donc, je reviens sur ça après, parce que c'est pour moi le point fondamental, en fait. Et vous savez que souvent, lorsqu'il y a deux thèses en présence, on a tendance soit à se radicaliser dans l'une, soit à se radicaliser dans l'autre. Et on a du mal, souvent, et c'est le propre, je pense, de la manière dont la parole nous présente ces réalités spirituelles, on a du mal à les garder les deux en même temps. Toute la difficulté est là. Vous rappelez ce que je vous dis à chaque fois, depuis la chute, nous sommes porteurs de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et nous avons tendance, charnellement, à choisir notre camp. Le camp du bien, le camp du mal. Le camp de l'objectif, le camp du subjectif. Le camp de la raison, le camp de l'émotion. Et on a du mal à garder les deux ensemble, parce qu'on ne peut les garder que par l'arbre de la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si notre désir unique est centré sur la personne de Jésus. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à garder les deux bouts. Sinon, on part dans l'un ou on part dans l'autre. Et donc, il est dit dans Romains 6, mais également, c'est la clé de marcher par l'esprit, que l'union à Jésus passe par l'union en sa mort. On veut tous être unis en Jésus ou à Jésus par l'esprit et avoir les fruits de l'esprit. Mais on oublie qu'avant la vie, il faut la mort. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais si le grain de blé tombé en terre meurt, alors la vie va jaillir de la mort. Le préalable à la vie, c'est la mort. Et c'est précisément ce devant quoi on recule. Cette mort-là. Parce que ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire quelque chose qu'on ne prêche plus beaucoup dans les églises aujourd'hui. La repentance. La lumière. La mise en lumière des ténèbres dans notre vie, dans notre chair, dans notre cœur. Il faut passer par une mort à ces illusions, nos propres illusions sur nous-mêmes. Il faut passer par le constat, justement, que notre chair est irréformable. Qu'à part la crucifier, à part la rendre impuissante par l'esprit, il n'y a rien que l'on puisse en faire, il n'y a rien que l'on puisse sauver. Or, quand on est appelé par le Seigneur, la première chose que la chair va faire, de paillarde, elle va se faire religieuse. Et vous avez nombre de religions sur la terre, christianisme compris quand il est vécu selon la chair, qui en fait se concentre sur l'apparence religieuse. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous passez votre temps à nettoyer l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est rempli de rapines. Et ça c'est quoi ? Le religieux ne peut pas changer ce qui est à l'intérieur. Donc il va simplement donner une belle façade, une belle apparence extérieure. L'union à Jésus en sa mort, c'est mettre à nu ce qui est à l'intérieur. C'est accepter de voir ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est comme, je l'avais déjà dit ça, c'est un peu comme une orange ou un oignon plutôt. Vous enlevez la première couche, ça y est, vous pensez que ça va, je me suis repenti, et voilà, il y a la deuxième couche qui apparaît. Vous enlevez la deuxième couche, par la prière, la lumière, ça peut être le partage également avec un frère, une sœur, on prie devant le Seigneur, on le prend, il, lui ou elle, comme témoin. Il ne faut pas oublier que ça aussi, c'est bénéfique pour notre marche spirituelle. Ça nous ramène, ça nous rabaisse un petit peu l'orgueil quand on doit dire à un frère avec frère, sœur avec sœur, ben voilà ce qu'il y a en ce moment, voilà ce avec quoi je lutte. On va prier devant le Seigneur. On enlève la deuxième couche, et hop, il y a une troisième qui apparaît. Et je ne sais pas, je l'avais dit la dernière fois aussi, je ne sais pas si vous faites parfois ce genre de prière, « Seigneur, montre-moi l'idole qu'il y a encore cachée quelque part dans le repli de ma chair. » Et quand le Seigneur le montre, on est toujours très étonné. Et on se rend compte, en fait, que vraiment les péchés profonds, ce n'est pas pour rien qu'ils sont qualifiés de profonds, c'est vraiment ceux qui sont au cœur. Donc vous voyez, les péchés superficiels, ils sont faciles, entre guillemets, mais plus on marche avec le Seigneur, plus on voit les péchés profonds. Ça, c'est l'union à Jésus en sa mort pour que se manifeste par l'Esprit sa vie. Mais la mort précède la vie, et nous voulons éviter la mort, parce que nous voulons éviter de voir notre chair pour ce qu'elle est, ou pour reprendre le langage de Jacques, nous voulons éviter de voir notre visage naturel à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, on n'aime pas voir ce que nous sommes selon la chair. Et comme je le dis à chaque fois, il est impossible de voir la chair à la lumière de l'esprit si nous ne voyons pas par ailleurs la beauté et la gloire de Jésus par le même esprit. Donc le même esprit qui nous révèle la beauté de Jésus est celui qui va nous montrer la laideur de notre chair. Et on ne peut pas voir la laideur de notre chair si on ne voit pas la beauté de Jésus. Donc c'est bien marcher par l'esprit, désirant Jésus, que du coup vous allez chanter les œuvres de la chair par l'esprit. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, au verset suivant, Paul dit « La chair convoite des choses contraires à l'esprit, et l'esprit désire des choses contraires à la chair. » En clair, les deux sont incompatibles. Il ne peut pas y avoir les œuvres de la chair en même temps que les fruits de l'esprit. C'est soit l'un, soit l'autre. Et des deux, c'est la chair qui doit céder. Vous voyez ? On tend à trouver un espèce de chemin religieux qui nous permette de continuer à vivre notre vie bon an, mal an, tout en pensant que le Seigneur est avec nous et que l'Esprit va pouvoir agir. Les deux sont radicalement incompatibles. La chair et l'Esprit, la loi et la grâce, le mal et le bien, les ténèbres, la lumière. Là, pour le coup, il y a une binarité de deux choses qui sont absolument incompatibles. Et donc, il y a un antagonisme profond, fondamental, entre chair et esprit. Et donc, comme je l'ai mis dans mes notes, il y a par conséquent un conflit de désir. Est-ce que c'est Jésus que nous désirons ou est-ce que c'est autre chose? Et dès que l'on désire autre chose que Jésus, ça tourne à la convoitise. Et ça va très très loin, ça. Comme on le sait, la bouche parle de l'abondant du cœur. Donc on parle avec certains, et tout ce qu'ils ont à la bouche, c'est leur théologie. On pense, parle avec d'autres, et tout ce qu'ils ont à la bouche, c'est leur expérience. Mais on ne parle pas de Jésus, qui éclaire l'intelligence pour comprendre la parole, et qui nous fait marcher par l'esprit pour expérimenter, évidemment, la relation avec lui. Donc c'est là que je vais essayer de développer une image, et ça va sans doute prendre jusqu'à la fin de la prédication, et donc je reprendrai sans doute la prochaine fois le fil. C'est pour essayer de mettre en image et de rendre concret la croix. Alors évidemment, pour ceux qui écouteront, ça ne va pas être simple, parce que je vais faire des gestes, mais je vais essayer de les décrire. Imaginons que la pièce qui est ici soit divisée en deux. Vous voyez, il y a une espèce de mur invisible qui est là. Et à ma droite, c'est la divinité, c'est le domaine de Dieu, mais de la nature divine. Et à ma gauche, c'est le monde de l'humanité. Et là, je pense à l'humanité charnelle, l'humanité perdue. Vous voyez ? Et entre les deux, il y a un mur de séparation. C'est important parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas et ne sera jamais divin, au sens le plus absolu du terme. L'homme ne peut pas franchir ce mur, qui est le domaine de la divinité. Qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Le Père a envoyé son Fils, et il va l'envoyer au niveau du mur de séparation. Le Fils, de nature spirituelle, divin, va se revêtir de chair et de sang, le corps et l'âme. Il va s'incarner et il va se tenir sur cette frontière. Son esprit divin, toute éternité, et son humanité qui se met à l'interface sur ce mur-là. Vous avez compris que le mur, évidemment, c'est la croix. C'est ce que nous célébrons, je vous signale à chaque fois que nous prenons la scène. C'est l'offrande de la chair et du sang qu'on célèbre par le pain et le vin. C'est son humanité que Jésus a offerte, ça n'a pas altéré sa divinité. Et nous, nous sommes de l'autre côté du mur, créatures qui entrons dans ce monde en étant déchues. Et le Seigneur nous fixe un point de rendez-vous, un lieu de contact, une porte d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est sur ce mur, cette interface, où le Fils de Dieu est cloué. Donc vous voyez, on peut mener notre vie religieuse de ce côté gauche du mur dans notre humanité, mais le Seigneur nous attend à la croix. C'est ce que l'on vient de chanter dans le dernier cantique. Si vous vous souvenez des paroles, non seulement on approche de la croix, mais ensuite on doit y rester. On ne peut pas franchir le mur, qui est la divinité, mais on doit rester à la croix. Mais il faut y approcher. Et pour approcher de cette croix, ben je l'ai dit avant, voir cette croix, c'est voir la souffrance du Fils et c'est voir ce que lui a coûté notre péché. Mais est-ce que nous voyons notre péché ? Est-ce que nous voyons notre chair ? Tant que nous ne voyons pas notre chair, nous ne nous approchons pas de la croix. L'union en Jésus à sa mort pour se retrouver sur le mur avec lui, sur la croix, demande l'œuvre dont j'ai parlé avant, cette œuvre de l'esprit qui fait que nous voyons notre chair pour ce qu'elle est. Et tant que nous refusons de la voir, tant que nous mettons des masques pieux, de bons chrétiens, tant que nous jouons aux religieux comme l'ont fait les pharisiens avec Jésus, ils restent loin de la croix. Ils ne veulent pas approcher de la croix. Ça, c'est la première idée. C'est le point de contact, il est dans ce mur-là qui sépare radicalement l'humanité de la divinité. Et à jamais, cette séparation aura lieu. Mais le point de contact entre les deux, c'est Jésus. C'est notre union à Jésus, notre désir à Jésus, de Jésus, qui nous unit à lui, mais sur la croix. Donc il faut non seulement nous approcher de cette croix, mais ensuite il faut y demeurer pour que la vie de l'Esprit se manifeste. C'est le but de la repentance, qui est une œuvre de l'Esprit. À nouveau, je le répète bien, c'est pas une œuvre de la chair qui essaie de se réformer elle-même, c'est une œuvre de l'Esprit qui s'opère quand on regarde à celui qui est sur la croix. Je parlais tout à l'heure de couches où on va de plus en plus profond. J'aimerais développer un tout petit peu ce point-là. Quand on demande à quelqu'un dans le monde et qu'on lui parle de Dieu, quelle est en général la première objection qui nous est balancée à la figure ? On essaie de parler de Dieu, on évangélise, on parle à un voisin, quelqu'un de la famille. Quelle est en général la première objection qui nous est renvoyée ?
Si Dieu existe, pourquoi le mal ?
Voilà. Alors, j'ai développé à peine ce que tu viens de dire. Tu dis que Dieu est bon, Dieu est amour. Alors, pourquoi tant de souffrances dans le monde ? En général, c'est la première objection. C'est la plus pavlovienne qui monte, mais y compris en nous. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre autant ? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je passe par tant d'épreuves ? Comment concilier l'amour de Dieu, qui naturellement pour nous, ça veut dire quoi ? Dieu nous protège, Dieu nous nourrit, Dieu prend soin de nous. Entre guillemets, tout va bien. Cette conception-là, et comment est-ce qu'on l'harmonise avec mais toutes les galères par lesquelles je suis passé, tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les maladies, les handicaps. On peut faire toute une liste. Comment est-ce qu'on concilie les deux ? Eh bien, les deux se concilient à la croix. Comment Dieu, le Père, peut-il être amour et avoir son Fils qui souffre et agonise à la croix ? C'est ça l'amour du Père pour son Fils ? Vous voyez le problème ? C'est ça l'amour du Père pour son Fils ? Donc là, on a deux manières de voir ça. On dit à la manière païenne, paillarde, Dieu est un Dieu sanguinaire qui prend plaisir au sacrifice. Et plus l'animal souffre, et mieux c'est. C'est une présentation très sadique de Dieu. Ou alors, par amour, le Père a offert son Fils à la croix et le Fils s'est offert volontairement. Mais pourquoi il s'est offert volontairement ? Pour endurer dans son humanité ce que nous endurons dans la nôtre. Parce que le but pour le Fils, quand il s'est approché du mur, il y a été cloué, c'est de ne surtout pas basculer dans la chair, ne pas pécher. Et c'est ça la victoire de Jésus. La victoire de Jésus à la croix a consisté à endurer tout ce que nous pouvons endurer sans jamais pécher, sans jamais s'écarter de la volonté du Père et sans jamais douter même de l'amour du Père. Et même si à un moment donné son âme a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la foulée, il a rendu son esprit au Père. « Père, je reçois mon esprit. » L'esprit a pris le dessus sur les souffrances de l'âme. C'est le même combat, en plus intense encore, que le combat qu'il avait déjà eu à Gethsémané, où il est dit « Mon âme souffre jusqu'à ce que... » C'est l'âme qui souffre. Et là, il y a le conflit de volonté dont parle Paul par ailleurs. « S'il était possible d'éloigner cette coupe de moi, cependant non pas ma volonté, mais ta volonté. » Vous voyez, on voit bien cet antagonisme, ce dilemme dans la volonté du Fils, mais qui choisit la soumission au Père, alors même que cela va provoquer sa souffrance. Et en combien plus à la croix, c'est le même combat en encore plus intense. Et qui a appliqué à la croix ? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. Qu'est-ce qui avait dit « si tu es le Fils de Dieu » trois fois ? Le tentateur, à quelle occasion ?
Dans le désert.
Voilà, donc au tout départ du ministère de Jésus, par trois fois, le serpent est venu en disant « si tu es le Fils de Dieu ». Et voilà qu'il réplique à la croix. Même parole. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, évite-toi la souffrance, sors de la volonté de ton Père et pêche, par conséquent. Sauve-toi toi-même. » C'est là la victoire de Jésus à la croix, de rester soumis à la volonté du Père malgré la souffrance et aller jusqu'au bout et ne pas céder. Et en faisant cela, il a pris toutes les souffrances de tous ceux qui allaient être unis à lui pour former ce même corps. Parce que quand Paul parle de ses souffrances à cause de son ministère, il les ramène immédiatement aux souffrances du Christ. Et il dit même « j'achève en mon propre corps les souffrances du Messie ». Donc il voit bien qu'il est, participant de souffrances du Messie, que le Messie a déjà porté à la croix et qu'il a vaincu en ne cédant pas, en ne cédant pas au désir de se sauver lui-même. Parce que s'il le faisait, il basculait dans le camp de l'humanité déchue et c'en était fini du salut. C'en était terminé. Donc quand on dit que Jésus a vaincu à la croix, c'est qu'il n'a pas permis en lui la naissance, encore moins la manifestation de la chair, de la nature charnelle. Il est resté soumis au Père jusqu'au bout. Et c'est en ce sens que dit Ésaïe, il a porté nos souffrances, nos maladies, toutes ces choses-là, il les a portées. C'est-à-dire que quand on s'unit à lui, à la croix, par la démarche dont j'ai parlé avant, il devient celui qui nous donne l'esprit, qui en lui a résisté aux tentations, aux souffrances, etc. Et il nous partage le même esprit pour que nous puissions également, c'est les béatitudes qui ont été lues tout à l'heure, heureux quand vous serez persécutés, heureux, ben oui, mais parce que lui a été persécuté et que par l'esprit en lui, il a surmonté les persécutions en restant obéissant au Père et il nous donne le même esprit pour pouvoir vaincre les mêmes combats, les mêmes luttes, les mêmes souffrances, etc. Donc, entre guillemets, il est le creuset de la victoire de l'esprit sur la chair en son propre corps et il nous rend participants de cet esprit-là pour expérimenter la même victoire. Et donc, c'est étonnant que la victoire et la puissance par l'esprit se manifeste à ce point-là par la faiblesse de la chair. Et ça, c'est anti-religieux au possible. Parce que le religieux, au contraire, il cherche à être fort, à être bien formé théologiquement, bien armé dans sa volonté, etc., pour essayer d'avoir la victoire. Et là, le chemin qui nous est montré, c'est ce que dit Paul dans Corinthiens, c'est le chemin inverse. La victoire par l'esprit passe par la faiblesse dans notre humanité et l'affaiblissement, voire l'impuissance de la chair. Et ça passe par la faiblesse. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais ressuscité à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. Quand je l'ai dit, on enlève les pelures d'oignon au fur et à mesure. Et à un moment donné, on est obligé de toucher à des choses qui sont extrêmement profondes en nous et qui souvent sont les sources de rébellion dans nos propres vies. Et le vrai combat, c'est quand on atteint ces péchés-là, qui sont des péchés de rébellion, qui s'opposent à la soumission à Dieu. Et donc, c'est l'acceptation de choses qui sont dans nos vies. Je prends un exemple. Je prends le corps, l'âme et l'esprit. Jean 9, l'aveugle qui est né de naissance, qui est aveugle de naissance. Il a resté des années et des années aveugle à mendier. Donc il a souffert, cet homme. La première remarque des disciples à Jésus, « Ah, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit comme ça ?» Et Jésus répond, « Mais vous vous trompez complètement de logiciel, là. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ou pas péché, ce n'est absolument pas le problème. Il est comme ça pour la gloire de Dieu. Et je vais vous le démontrer maintenant. » Et il l'a guéri. Et il l'a envoyé ensuite dans les pattes des pharisiens, des religieux, qui ne savaient pas quoi en faire. Vous voyez ? Et il a rendu témoignage, lui qui venait à peine de recouvrir la vue, face à des religieux remplis de leur théologie. Quand on peut se décentrer de soi et réaliser que nos handicaps, nos faiblesses ont un sens dans la volonté du Père pour manifester sa gloire, on entre dans la soumission au Père. On entre dans la paix et on réalise que des choses que l'on n'avait vraiment pas demandées et dont on se serait bien passé ont un sens dans le plan de Dieu. Et c'est quand on arrive à saisir cela qu'on cesse d'être en rébellion contre Dieu, contre le Père, et qu'on entre dans cette paix. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph ? Hein, toutes les galères par lesquelles il est passé, vendu par ses frères, il a failli être tué d'ailleurs par ses frères. Ensuite, il a été vendu en esclave, même dans la prison. La femme de Potiphar, qui cherchait à le corrompre, à cause de ça, il était au service de Potiphar, pardon, et à cause de la femme de Potiphar, il va finir en prison. Voilà, je ne vais pas tout raconter toute l'histoire, évidemment, mais. Vous savez qu'il va finir par devenir le bras droit de Pharaon et que ses frères vont se présenter à lui parce qu'il y avait la famine en Canaan. Et à la fin, quand il se dévoile à ses frères, il dit « Mais ce que vous avez pensé en mal, Dieu l'avait pensé en bien. » Et Joseph n'était plus que conscient du dessein de Dieu dans sa vie et plus du tout conscient des instruments que Dieu a utilisés pour accomplir le dessein en sa propre vie. C'est exactement ce dont je suis en train de parler. Quand on arrive à dire, non, ça c'est le dessein de Dieu, ça m'a fait souffrir, ça a provoqué des tas de choses dans ma vie, mais Dieu a un dessein, je lui fais confiance, parfois il montre pourquoi, parfois il ne montre pas pourquoi, mais je sais que le jour viendra où toute la lumière sera faite. C'est la soumission à la volonté du Père. Ça peut engager les souffrances du corps, comme je viens de le dire, mais aussi de l'âme. Ça peut être une faiblesse de caractère, mais ça peut être également, on expérimente un deuil. On expérimente des abus. On expérimente la persécution, toutes sortes de choses. Heureux serez-vous quand vous serez persécuté. Il y a des souffrances de l'âme qu'il faut savoir remettre au Père Céleste. Et sachant que dans notre condition de pécheur pour le moment dans le monde, ça veut dire non entièrement glorifié, comme nous le saurons à la résurrection, eh bien, il y a des choses que le Seigneur ne nous épargne pas, mais qu'il faut apprendre à lui remettre pour rester dans la soumission. À nouveau, tout le combat de Jésus à la croix, c'est de rester soumis au plan du Père, et il le fait volontairement et par amour pour nous. Et enfin, évidemment, il y a les souffrances de l'esprit, et je vais terminer avec cela. Les souffrances de l'esprit, mais pensons à nouveau aux évangiles. Quand un pauvre père amène son fils, tourmenté par le démon, qui le fait rouler dans le feu, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a demandé l'enfant pour être possédé par un esprit impur ? Qu'est-ce qu'il a demandé ? Vous voyez ? Donc il y a comme ça des désordres dans nos vies qui ont en fait une origine spirituelle. On ne sait même pas par où c'est entré. Mais là encore, par la lumière, par la mise en lumière de la chair, par la mise en lumière de notre vie intérieure, d'arriver à surmonter, dépasser, pour pouvoir ensuite éloigner et chasser ce genre de source de tourment et de souffrance. Donc, Il y a les péchés superficiels, et en général, les premiers péchés qui nous viennent quand on se convertit, comme on dit, quand on est appelé par le Seigneur, sont en fait les plus visibles et les moins graves. Les vrais péchés, ils sont cachés, profonds, et ils ne viennent pas comme ça. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici, pêcheurs à la ligne, mais il y a certains poissons, pour les attraper, il faut y aller. Donc c'est le Seigneur qui fait ça. Mais tant qu'on en reste aux péchés de surface, et on pense que ça y est, tout est fait, ben en fait, on ne va pas au fond. On ne laisse pas la lumière entrer en nous pour mettre vraiment ces péchés profonds qui sont souvent liés, comme je l'ai dit, à la souffrance, et qui sont des péchés de rébellion. Comme je l'ai dit à nouveau, quand on interroge quelqu'un dans la rue et qu'on commence à parler de l'amour de Dieu, « Ah, si Dieu est amour, pourquoi les guerres, les maladies, les famines ?» C'est la première chose. On n'arrive pas à concilier les deux. Mais imaginez que si le monde n'arrive pas à les réconcilier les deux, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les réconcilier. Et le Père réconcilie cela à la croix. L'amour du Père et la souffrance du Fils sont réconciliés à la croix. Donc c'est à la croix que ce profond dilemme entre l'amour de Dieu et les souffrances, nos souffrances, ce n'est qu'à la croix que les deux peuvent être harmonisés. Et tant qu'on reste hors de la croix, donc loin de ce mur central-là, tant qu'on reste loin de la croix et qu'on reste religieux avec juste des péchés de surface, on n'arrive pas à concilier les deux. Voilà. Et donc le verset se termine en disant, donc la chair et l'esprit sont incompatibles, afin que vous ne mettiez pas en œuvre ce que vous voudriez. Donc la chair s'exprime, hein. La chair s'exprime, la chair a des convoitises, et la chair nous parle, la chair nous susurre à l'oreille. Voilà. Je ne parle pas donc là de perfectionnisme, où on serait libéré de la chair. Il s'agit plutôt que cette chair soit sous domination de l'esprit, parce que notre désir est orienté ailleurs, c'est-à-dire sur Jésus. Donc vous voyez, voilà, ce matin, mais je m'y attendais, je n'ai couvert que les deux premiers versets du passage d'aujourd'hui. Et donc, il y aura bien d'autres choses à dire la prochaine fois, et je prendrai donc la suite.